Prendre la décision de partir, c'était un grand pas. Mais ça n'était que le premier. Où qu'on ait travaillé avant, Hollywood n'a pas d'équivalent dans le monde. Alors pour y faire sa place, il faut assurer et ne pas se laisser impressionner. Équipe faramineuse, horaire à rallonge, agent tout puissant et succès fulgurant, dans ce deuxième épisode, les acteurs et actrices vous font entrer dans les coulisses de la grosse machine. Vous écoutez Hollywood French Lovers, une série audio réalisée par Sofilm, en partenariat avec la plateforme de VOD Universciné. Universciné, tout un monde de cinéma.
Hollywood French Lovers.
Hollywood, on l'appelait The Continental Lover.
Hein? Hollywood French Lovers.
En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
Hollywood French Lovers.
Épisode 2, ouvrir les portes du Star System. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'acteur Jimmy Jean-Louis qui avait décidé de quitter la France où les portes étaient fermées. Et je vous disais que depuis son arrivée à Los Angeles, il enchaînait les films d'action. Récemment, Jimmy a eu un honneur particulier. Il a tourné le dernier film et même la dernière scène de Bruce Willis. En mars 2022, la famille de la star internationale annonçait qu'en raison de graves problèmes de santé, il devait mettre un terme à sa carrière. Dans un de ses derniers projets, la trilogie The Detective Knight, Bruce incarne avec Jimmy un duo de flics américains. Mais entre cette petite consécration et le jour où Jimmy a débarqué aux États-Unis, la route a été longue.
Vu que je suis arrivé là-bas, j'ai pu faire des publicités, j'ai pu rentrer directement dans le mannequinat aussi. Donc ça m'a permis de me construire. Et j'ai pris des cours d'acting, j'ai fait beaucoup de films d'étudiants indépendants. Et puis après, c'était à la recherche d'un représentant, que ce soit un manager ou un agent. Et ça a pris beaucoup de temps aussi. Ça a pris à peu près 3 ans avant que je trouve un manager.
Si Jimmy parle des managers et des agents, c'est parce qu'à Hollywood, c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps. Quand on n'est pas encore connu, difficile de décrocher des rôles sans représentant. Mais pour ça, il faut déjà arriver à avoir ce représentant.
Que ce soit l'agent ou le manager, il te regarde comme si que... Attends, mais tu sors d'où, toi? Quoi, tu veux travailler là-bas? Avec un accent, en plus de ça, t'es complètement atypique, t'es un noir, mais t'es pas un noir américain, t'as... Mais je rentrais mais complètement pas dans aucune case, quoi. Aucune case.
Seule solution, patience et persévérance.
Non, je suis pas américain. Oui, j'ai un accent. Et alors? Mais je savais aussi que j'avais beaucoup d'avantages. Je suis quelqu'un qui a voyagé dans plusieurs pays. Je suis quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je suis quelqu'un qui peut faire plusieurs accents, donc qui peut faire plusieurs personnages, des personnages... caribéens, des personnages africains, des personnages européens. Donc oui, j'ai des choses à proposer. Donc ne vous arrêtez pas uniquement à ce que vous connaissez, être américain. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis dit très tôt et que c'était à moi de leur faire accepter qu'ils pourraient avoir d'autres propositions.
Même cas de figure pour l'acteur Gilles Marigny. À 18 ans, après quelques expériences de mannequinat en France, il décide de rejoindre les États-Unis.
J'ai pris un sac à dos, $500, et je suis prêt dans un avion, quoi.
Une fois arrivé, il essaye d'intégrer le Star System.
Petit à petit, j'ai appris la langue, j'ai trouvé une agence, j'ai trouvé la façon de pouvoir rester légalement ici. Et puis, les boulots se sont enchaînés dans le mannequinat, mais aussi dans les publicités.
Pendant une dizaine d'années, il grimpe les échelons.
Donc un jour, j'ai eu un coup de fil, j'ai eu un casting pour un film qui s'appelle Sex and the City. Et à peu près sur 3000 personnes qu'ils ont vues, ils m'ont retenu moi, c'était un peu bizarre.
Et à partir de là, la machine est lancée. Bon, on l'a vu dans le premier épisode, certains n'ont pas autant galéré pour obtenir leur premier rôle, ou même leur premier agent. Comme Julie Delpy, qui a commencé sa carrière aux États-Unis lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, après plusieurs gros succès en France et en Europe.
En fait, j'ai eu un agent dès que je suis arrivée à New York, parce que j'avais fait des films en France qui avaient été nominés aux Oscars. Europa, d'Agnieszka Holland. Donc quand on a un film nominé aux Oscars, c'est plus facile évidemment d'avoir un agent parce que les gens vous remarquent, etc. Donc j'avais été voir un agent, je ne sais plus qui c'était, à ICM, je crois que c'était Sam Cohn, un vieux de la vieille très sympa, qui m'avait pris, et voilà, c'était assez simple, il était gentil comme tout, c'était un vieux monsieur, hein, il était très vieux déjà à l'époque, hein, il est mort depuis, mais voilà, c'était mon premier agent là-bas, il était hyper sympa.
Mais même pour ceux qui ont eu des facilités à décrocher des agents et des rôles, le plus gros est loin d'être fait. Étape suivante, savoir jouer en anglais. L'actrice Astrid Burgess-Frisbee se rappelle lorsqu'elle a passé son premier casting américain pour le rôle de Sirena dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence.
Il s'agissait du quatrième volet. Et quand j'ai passé les essais en France, on m'a contactée pour passer les essais en France. Je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'on voulait, mais voilà, je me suis présentée aux essais, je ne parlais pas anglais. Donc j'ai appris le texte limite phonétiquement.
Pour décrocher le casting, le système D s'est passé. Mais une fois sur le plateau, il a fallu travailler.
Il y avait une coach d'accent formidable qui coachait tous les acteurs étrangers du film. On était quand même beaucoup, assez nombreux. Il y avait des Espagnols, il y avait tout un tas d'acteurs qui venaient de divers endroits. Et du coup, on avait cette coach d'accent formidable qui avait repéré que j'avais une oreille assez juste. Et donc, elle s'est fait une espèce de mission de me permettre d'apprendre l'anglais avec un accent plutôt bon.
Et choper l'accent, c'est pas évident. Même pour ceux comme Lizzie Brocheret qui parlent déjà bien anglais, il faut s'entraîner encore et encore.
J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler les accents. Et il y a eu vraiment toute une période de ma vie où j'ai passé je ne sais pas combien d'heures par jour à the cat. Ouais, c'est vraiment débile, quoi. En faisant des, abdos le matin. Enfin, vraiment, c'était voilà, pas forcément l'époque la plus glorieuse de ma vie, mais voilà. En tout cas, ça paye.
Lorsqu'elle a commencé le tournage de Kaboom de Greg Araki, Roxane Mesquida n'en menait pas large non plus.
Et c'est drôle parce que la première scène que j'ai faite, je devais être nue avec Ellie Bennett qui joue ma copine dans le film. Et c'était une scène d'amour entre nous. C'était la première scène, le premier jour du tournage. Et c'était drôle parce qu'elle, elle était tellement angoissée à l'idée de montrer ses seins et d'être nue et tout ça. Et moi, bah, pas du tout. J'étais là et vraiment, j'étais plutôt focalisée sur l'anglais. C'était drôle.
Tourner dans une autre langue que la sienne, logiquement, c'est un peu déstabilisant au début. Mais s'il n'y avait que ça. Débarquer à Hollywood, c'est aussi découvrir un nouvel univers. Lizzie Brocheret se souvient de son premier jour.
Quand je suis arrivée là, dans cet endroit, c'était la première fois que j'arrivais dans des studios... Ryan Murphy, autant dire qu'apparemment, il avait je sais pas combien de stages à ce moment-là. Il avait Glee qui tournait en même temps qu'American Horror Story, en même temps que je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'était le il avait carte blanche de tous côtés chez les chaînes, donc il avait beaucoup d'argent, quoi. Et donc les studios, ça n'avait aucun sens. Ma saison, c'était Asylum. C'était dans un asile psychiatrique dans les années 60. Et waouh, tu arrivais là-bas et tu voyais 40 figurants qui étaient en train de se mettre dans leur personnage à l'américaine, quoi. Et t'étais voilà, plongé tout de suite dans cet univers. Mais après, tu passais une porte et t'arrivais chez Glee, quoi. Ça n'avait rien à voir. Et là, il y avait des comédies musicales, enfin, c'était rigolo, quoi. Donc ouais, c'était mon premier rôle aux États-Unis et c'était vraiment une belle façon de découvrir... l'énorme force de pouvoir qu'ils ont, en termes d'industrie de la série, quoi.
Astrid Burgess-Frisbee, elle aussi, n'a pas fait les choses à moitié en commençant avec Pirates des Caraïbes, un des films les plus chers de l'histoire du cinéma.
C'était très impressionnant, parce qu'on était extrêmement nombreux. Je crois qu'il y avait des jours sur le plateau, on était 800. Enfin, c'était une machine colossale. Et ce qui était passionnant pour moi, c'est de toucher à des métiers, enfin de pouvoir observer des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les effets spéciaux, dans les détails de décors, d'accessoires, de, enfin il y avait comme une espèce de machinerie énorme. Parfois on avait un peu de mal à obtenir des informations parce que entre la personne à qui on peut demander et la personne qui a l'information, il y a 10 personnes intermédiaires, en fait. Donc, ça peut être très long pour la communication, par exemple.
Sur les tournages XXL, cette autre forme d'organisation du travail change un peu les rapports sur le plateau et demande aux acteurs et aux actrices une certaine capacité d'adaptation.
Les équipes américaines, en tout cas les anglo-saxons, ont tendance à considérer les acteurs comme beaucoup plus autonomes. On attend en fait de l'acteur une certaine autonomie de travail et une certaine force de proposition.
Même impression pour Lizzie Brocheret sur le tournage de la série American Horror Story.
C'est vrai que c'était la première fois aussi que je découvrais une façon de faire. En France, moi, les séries que j'avais faites, elles étaient peut-être... peut-être moins intéressante, mais en tout cas, il y avait toujours une sorte de dialogue direct avec le réalisateur. Et là, en fait, il n'y avait pas vraiment de force du réalisateur. C'était le réalisateur, on changeait tous les épisodes. C'était plutôt un chef d'orchestre au service des acteurs et du chef-op et du showrunner, quoi. Sauf que le showrunner n'était pas forcément là, les auteurs étaient tout le temps présents. Enfin, c'était toute une hiérarchie que je connaissais pas du tout et où, en fait, c'est ultra responsabilisant pour l'acteur. En général, en France, j'étais plutôt habituée à co-créer et là, c'est très solitaire le travail d'acteur à la télé en Amérique, quoi.
Hollywood French Lovers.
Une autre différence majeure sur les tournages, l'amplitude horaire. Aux États-Unis, le droit du travail est beaucoup plus flexible, disons. Alors les 35 heures à la française, on oublie, assure Jimmy Jean-Louis.
Toutes les journées sont grosses dans les films aux États-Unis. C'est un minimum de 12, 13, 14, 15, 16 heures. C'est aussi la différence avec la France où tu as quand même 8 heures de boulot, alors que là-bas, moi, j'ai jamais vu 8 heures de boulot sur un film américain. C'est quasi pas faisable.
Des journées à rallonge, Astrid Bergès-Prisbay en a eu un paquet sur Pirates des Caraïbes.
Mais sur Pirates, j'avais 6 heures de maquillage en plus de mes journées de tournage. Donc le seul moyen pour nous de tourner, c'était que je n'ai pas les mêmes temps de repos qu'une personne normale. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu en France. Après, ça peut exister aussi, mais dans cette proportion-là, je ne sais pas. Je pouvais me lever à 3 heures, aller sur le plateau à 4 heures. Et de 4 heures à donc 6 heures plus tard, j'étais en maquillage. Et puis après, je commençais à tourner pendant une dizaine d'heures. Puis après, j'avais une heure pour me démaquiller.
Le tournage du film a duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels Astrid a totalement mis sa vie entre parenthèses. Et après, c'est pas fini. Il a ensuite fallu enchaîner avec la promotion du film.
Je trouve que j'ai été beaucoup plus dépaysée sur la différence de promotion que sur la différence de tournage. On a fait ça sur divers pays, avec plusieurs avant-premières. C'est une espèce de tour mondial comme ça, où du coup, dans chaque pays, on se retrouve à faire une conférence de presse tous ensemble, puis après, des journées d'interview où c'était... Enfin, à l'époque, ça se faisait pas tant que ça en France de faire des press junkets où on a 3 minutes par acteur, ce qui est complètement épuisant, en fait, pour tout le monde. C'est très frustrant, en fait, comme exercice. Parce qu'on se retrouve à répéter les mêmes choses inlassablement. Je crois que j'ai dû faire 56 interviews un jour, en plus de la conférence de presse. C'est énorme. Donc on finit, on est complètement, on se sent débile, profondément débile.
Quand on joue dans des super productions, forcément, on connaît des super succès. À des échelles auxquelles il est difficile de se préparer. Après avoir travaillé pour Araki, Roxane Mesquida a tourné dans la cultissime teen série Gossip Girl.
Le créateur de Gossip Girl, son film préféré, c'est Amasseur de Catherine Breillat. Il faut le faire quand même. Quand il a écrit le personnage de la princesse de Monaco, il m'a dit qu'il pensait complètement à moi pour le rôle déjà. Et moi, j'étais très, très excitée à l'idée d'être dans cette série parce que je trouve ça très drôle et j'avais l'impression d'être moi, ado, qui me retrouvais dans une série que j'aurais pu regarder quand j'étais ado.
Elle, qui était plutôt habituée au cinéma d'auteur, elle a eu quelques surprises.
Vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que ma première scène, c'était dans les rues de New York où on devait se parler avec Leighton Meester et il y avait des paparazzis qui nous collaient Et en fait, le problème, c'est que quand on tourne dans la rue à New York, on n'a pas, ils n'ont pas le droit de leur interdire, en fait. Donc, ils étaient, mais collés à nous. Et ils prenaient des photos et ils s'engueulaient. Il y en a un qui est tombé par terre, en plein milieu de la scène. Et je me disais, mais comment ils font pour se concentrer avec tout ce boucan autour? Et c'était une longue scène avec 3 tonnes de texte. Et je suis là, mais est-ce que je vais m'en sortir, quoi?
Gilles Marini, lui, se souviendra toujours de l'avant-première du film Sex and the City. C'était au Radio City Music Hall de New York. Une salle de 6000 places, pleine à craquer. Il s'est d'abord trompé et a fait la queue avec le public. Puis, il a fini par regagner son siège.
Déjà, premièrement, ils m'ont mis en tant que date, à côté de moi, assis, Fergie. Parce qu'elle avait fait toutes les chansons du film. Et quand je me suis assis à côté d'elle, j'étais bonjour, tu vois. Elle se tourne, elle fait « Oh my God !» Elle était super contente que je sois là. Alors moi, je comprenais pas pourquoi. Elle m'a dit, oh, tu vas voir le film, tu vas péter les plombs. Elle m'a dit, mais le moment où le film il s'arrête, tu vas pas pouvoir sortir d'ici. Hein. Et le moment où le film il s'arrêtait, j'ai mis 1h30 pour sortir. Je me demandais si j'avais encore des fringues sur moi. C'était hallucinant. C'est choquant. Tu sors, t'as le paparazzi devant chez toi, tu te demandes, c'est qui, quoi? Est-ce que ma famille est en sécurité? Tu te fais des films, quoi, la con? Mais ça a été extrêmement rapide pour moi. C'était vraiment, comme on dit, du jour au lendemain.
Ces gros succès sont aussi impressionnants qu'ils sont fugaces. Même lorsqu'un film ou une série fonctionne bien, la partie n'est jamais gagnée.
Et comme on dit ici aux États-Unis, quand on te donne un projet, squeeze the lemon. Jusqu'à la fin, tu squeezes le lemon à fond parce que sinon, on t'oublie vite fait, quoi. L'Américain, il a 5 minutes de mémoire, un peu comme le monde aujourd'hui, quoi. Si tu restes pas dans le feu, bon, on t'oublie vite fait, quoi.
Jimmy Jean-Louis complète.
C'est le genre de situation où tu penses que, voilà, maintenant que t'as décroché quelque chose, le reste va venir tout seul. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tu décroches et c'est là qu'il faut te battre encore plus pour avoir l'autre projet et l'autre projet et le prochain et le prochain. À vrai dire, c'est sans arrêt. J'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu différent de la France où, quand certains acteurs peuvent arriver à un niveau où c'est presque automatique que ça va tout seul parce qu'il y a beaucoup de propositions. Là-bas, aux États-Unis, il faut tout le temps, tu es tout le temps en train de te battre. Même au plus haut niveau, tu vois, tu te bats tout le temps parce que la compétition est tellement difficile, il y a tellement de monde, c'est une vraie bousculade, quoi.
Alors même si Hollywood n'est pas toujours l'univers impitoyable qu'on s'imagine, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Car tout va très vite et rien n'est prévisible. Très récemment, par exemple, la série American Gigolo, pour laquelle Lizzie Brocherie avait l'un des rôles principaux, c'est brutalement arrêté.
D'ailleurs, là, la dernière série que j'ai faite, on a l'auteur principal, le presque seul auteur qui s'est fait virer en cours de parcours. Donc ça, c'est vraiment très américain aussi, je pense. Mais voilà, le studio, tout à coup, ça allait plus, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, on est à l'épisode 7, et là, l'auteur, showrunner, se fait virer. Et donc là, du coup, et là, c'est, tu continues à tourner, mais tu ne sais pas du tout ce que tu tournes. Enfin, voilà, c'est comme dans un bateau qui n'a plus de capitaine. Ça, c'était une expérience bien, bien marquante, quoi. Ce côté, la chaîne et le network ont décidé quelque chose que tu apprends dans les médias. Alors peut-être que ça se fait en France, hein, mais moi, je n'ai jamais vécu ça en France. Et bon, bref, donc ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, là, sans auteur, sans rien, la série, elle, on a plongé dans des abîmes de non-sens et de... voilà. Mais on a fait 2 épisodes de plus, puis on s'est arrêté gentiment.
Alors parfois, Lizzie a besoin de s'éloigner un peu d'Hollywood, de son rythme et de ses aléas. Et ça, depuis le début de sa carrière américaine. Après le succès d'American Horror Story, elle a préféré ne pas rester sur place.
En fait, la série, elle commence à être diffusée pendant que vous tournez. Donc, à partir du 6e épisode, quand on a tourné les 6 épisodes, tu descends dans la rue, les gens, ils t'ont vu à la télé, quoi. Et donc, du coup, moi, j'étais pas du tout habituée à ça. Surtout dans une ville qui aime vraiment ce qui est dans l'air du temps, tout de suite, là. Enfin, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attention, quoi. Et j'étais pas du tout réceptive, moi, à ça. C'était pas du tout ce que j'aimais. Je préférais faire mon truc dans mon coin. Et du coup, dès que la série s'est terminée, je suis partie.
je suis partie au Népal. Enfin, vraiment, bam. Et là, je suis partie 4 mois au Népal. Et c'est, voilà. Bon, après, c'est peut-être des erreurs de parcours ou tout ça, je pense. Mais à ce moment-là, on m'avait dit, c'est bien si tu restes, si tu fais le truc d'après. Mais moi, je ne pouvais pas, quoi. Et même à chaque fois après, en fait, j'ai retourné après pas mal. J'ai fait d'autres séries de genre après celle-ci. Et à chaque fois que je terminais, je ne pouvais pas rester.
Et depuis, avec son compagnon, elle alterne entre tournage dans les studios et grosses coupures.
C'est vrai que voilà, après 6 mois à Los Angeles, j'ai eu besoin de partir au Népal. Après 6 mois à New York, on est parti vivre à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, et du coup, on a fait plein de trucs là-bas. Après 6 mois, on était voilà, à chaque fois, on combinait avec 6 mois et 6 mois à Calais. Enfin voilà, on a été de plus en plus du coup radicaux dans notre façon de nous chercher, quoi.
Des premiers pas dans les studios jusqu'au succès international, vous avez eu un petit aperçu de ce que c'est la vie d'acteur aux États-Unis. Alors oui, c'est pas forcément rose tous les jours. Mais nos Frenchies sont unanimes. Si c'était à refaire, ils fonceraient sans hésiter. Tous ont su trouver des projets qui leur correspondaient et ont su se faire adopter par les Américains. Est-ce que vous pensez que le fait d'être français les a aidés? C'est justement la question qu'on se posera dans le prochain épisode. Aux États-Unis, certains clichés sur les Français ne datent pas d'hier. Alors pour nos acteurs, vous verrez qu'il faut autant savoir les prendre à son avantage que s'en détacher. C'était le 2e épisode de la saison 2 d'Hollywood French Lovers, une série audio by Sophine.